7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue en 2019, 7 milliards de voisins et de voisines et bonne année à vous tous les voisins et les voisines. Aujourd'hui on célèbre cette nouvelle année autour du monde avec des invités passionnés de cuisine, une cuisine de cœur, pleine d'élan, d'enthousiasme. Ils vont nous raconter avec quel plat de fête ils ont grandi, nos invités, nous livrer aussi de belles recettes, histoire de nous faire rêver, de nous inspirer. Derrière les fourneaux, 7 milliards vous propose donc un voyage de saveurs et de parfums, mijotés lentement, très lentement, parfois une journée entière derrière les fourneaux et 2 heures seulement pour déguster. Oui, parfois c'est injuste. Et surtout pour partager de la bonne humeur, de la convivialité. On va passer les plats de l'Italie à la Russie en passant par le Portugal, le Mali. Simone Zanoni, bonjour.
Buongiorno.
Vous êtes un chef cuisinier du restaurant Le Georges à l'hôtel Georges V qui est un palace parisien. Votre table a une étoile au guide Michelin en 2017. Et vous publiez Mon Italie, aux éditions La Martinière. Auguri, Simone Zanoni.
Grazie mille, auguri à vous aussi. Très bonne chose pour l'année 2019. J'espère que...
Et surtout des bons petits plats, de la gourmandise.
Et surtout, hein, la gourmandise, c'est nécessaire.
On vous fait confiance en tout cas. Pavel Spiridonov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un passionné de cuisine, né à Saint-Pétersbourg, auteur de La Cuisine Russe, recette pour tous les jours. C'est le deuxième livre, hein, c'est ça?
Oui, c'est le deuxième.
Et comment on se souhaite la bonne année chez vous?
Bon,
je vous répondrai plus simplement bonne année. Hein. Je ne prendrai pas de
bonne
risque
année,
avec une langue
bon
que je ne maîtrise pas. Anaïs Delon, bonjour.
Bonjour.
La cuisine portugaise entre tradition et modernité, c'est votre livre, un livre de recettes. Vous êtes passionné de cuisine, vous n'êtes pas chef vous-même. C'est pas votre métier, mais vous êtes accompagné d'un chef, César de Souza. Bonjour à vous.
Bonjour.
Feliz Ano Novo.
Feliz Ano Novo.
Merci,
et
c'est bien
felicidades.
Mieux.
C'est l'accent du portugais est très difficile à maîtriser.
Oui, surtout quand on parle qu'italien. Chef cuisinier du bar à manger, c'est bien comme ça que vous voulez l'appeler.
C'est ça, exactement.
L'uso gaulois.
Oui, et ça j'insiste également sur le l'uso gaulois.
Passarito.
Oui.
On sera aussi en ligne à Bamako avec le chef franco-malien Nounou Dembaga qui nous parlera aussi des plats de fête au Mali, mais pour l'heure, on démarre. Alors, beaucoup de choses, vous ne le voyez pas, les voisins et les voisines, beaucoup de plats, de douceur, plus exactement, apporté dans le studio de RFI, mais il n'y a pas que des douceurs, on parlera charcuterie, on parlera surtout générosité via la cuisine.
Bonne année, bonne année.
Je vais te montrer ce qu'on mange.
Et merveilleuse ton omelette, François.
Oh, légère, onctueuse.
Moi, mon truc, c'est de rajouter une petite goutte de bière quand j'ai battu les œufs.
Alors maintenant qu'on s'est tout dit et que je ne répète jamais deux fois les mêmes choses.
Oui, oui, passe du bon temps en famille, je pensais à toi. Je te souhaite que de belles choses. Oui, oui, je suis sûr que ce sera une bonne année.
Voilà, c'est la version bonne année de Romain Dubrac, le réalisateur de 7 milliards de voisins. Simone Zanoni, les repas de fête en Italie, ça, en fait, ça se prolonge jusqu'à l'épiphanie début janvier, non?
C'est quelque chose que ça se prolonge presque 24 sur 24.
Ouais,
parce que les repas de fête, ils sont très loin chez nous. C'est des moments que, déjà, nous, on est dans un contexte très convivial parce que quand j'étais en Italie quand j'étais plus petit, tous les dimanches, on avait déjà l'habitude de passer du temps ensemble en famille, avec la nonna, avec la maman, avec les cousins, la grand-mère. Et je pense que les repas de fête, c'est un repas de dimanche amplifié puissante 10 avec des plats encore plus gourmands, mais toujours dans un contexte très convivial.
Vous avez grandi dans le nord de l'Italie, hein. C'est là qu'on mange, qu'on cuisine le plus, non? Enfin, on va pas vexer les Italiens du sud, mais...
Non, c'est pas qu'on cuisine plus. En fait, on cuisine de manière un peu différente parce que nous, on est quand même un peu en montagne. Alors du coup, l'Italie, c'est pas juste que de la tomate, du basilic, de la mozzarella. Mais nous, on est plutôt en montagne. On est vraiment produit beaucoup de fromage, beaucoup de beurre aussi également. Mmh. On produit du beurre fermier qui est magnifique. Et c'est une cuisine conviviale avec bien sûr des plats de pâtes qui sont spécifiques aux fêtes. Après, on a les côtés kino.
Un plat de pâtes spécifique vraiment aux fêtes, qu'est-ce que c'est?
Par exemple, les tortelli, nous, qu'on mange vraiment...
Donc c'est des petits raviolis.
Les petits tortelli, oui. Farci au potiron et amaretti avec de la mostarda pour donner le côté un peu piquant.
Du potiron et un parfum à base d'amandes.
Exactement, oui, c'est un biscuit aux amandes. Et également, on met de la mostarda, que c'est des fruits confits avec de l'essence de moutarde.
Mais tout ça dans les mêmes raviolis?
Dans les mêmes raviolis, oui. Et ça fait un mélange un peu sucré-salé.
Oui, c'est ça.
Très sympa. Et bien sûr, tout fini avec du beurre noisette à la sauge. Parce que nous, on utilise beaucoup de sauge. Et je vous laisse imaginer un petit peu les goûts de ces petits plats.
Ouais, ça va être dur de tenir toute cette émission. César de Souza, Anaïs Delon, Lugassi. Un plat de fête au Portugal, c'est parce que c'est un pays qui a longtemps dû se débrouiller avec une cuisine qui était relativement sobre, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un repas de fête?
En fait, au Portugal, le repas des fêtes, il va surtout s'accentuer sur la famille. Il n'y a pas réellement de plat de fête en soi, parce qu'effectivement, la cuisine portugaise, c'est une cuisine qui est très sobre. Faut pas oublier que le Portugal est un pays qui a vécu en totale autarcie pendant plus de 70 ans, la dictature de Salazar. Et donc, effectivement, comme vous disiez il y a quelques instants, les gens se débrouillaient avec ce qu'ils avaient.
Avec, la pêche,
La pêche, en l'occurrence. Mais il y a également beaucoup de produits traditionnels portugais qui sont issus de cette contrainte. Je vais donner comme par exemple un fromage portugais, qui est le queijo de Serra Estrela, qui est un fromage qui est fait au beurre de lait de brebis. Et pour fermenter ce fromage, au lieu d'utiliser des ferments lactiques, ils utilisent de la fleur de chardon. Parce qu'ils étaient en manque de ferments lactiques. Il n'y avait pas assez d'animaux, pas assez de lait produit pour pouvoir extraire des ferments lactiques. Mais le repas de fête au Portugal, c'est la famille. C'est ça le plus important. Comme disait Simone il y a quelques instants, on va accentuer le côté famille en essayant de rassembler encore plus la famille. Et au Portugal, c'est plus l'aspect religieux de la chose, de ces moments-là, de ces dates-là, qui va être accentuée par rapport au dimanche habituel entre familles.
Y compris donc l'épiphanie début janvier, qui célèbre dans la religion chrétienne la présentation de l'enfant Jésus au roi mage. Exactement. Là aussi, il va y avoir un repas de fête prévu.
Absolument, en fait, au Portugal, la tradition de l'épiphanie est beaucoup plus forte que la tradition de Noël. Évidemment, ça s'est perdu ces dernières années avec la globalisation, mais moi quand j'étais petit, les cadeaux on se les donnait pas à la Noël, on se les donnait le jour des rois mages, au jour de l'épiphanie. Le jour de Noël, le plus important c'était d'aller faire la messe, ce qu'on appelle la messe du Galo, parce qu'il y a une légende portugaise qui dit que le jour que Jésus est né, il y a un coq qui a chanté, donc c'est la messe du coq. Et cette messe, moi j'ai pas connu ça, mais ma mère elle a connu ça, elle durait jusqu'à 4-5 heures du matin. Et c'est pendant toute cette durée de la messe qu'en fait, ils faisaient des plats plus ou moins spécifiques qui, eux, restaient à mijoter au four pendant tout ce temps-là. Donc, ce sont des plats qui mijotent, qui confisent pendant 5, 6, 8 heures parfois.
Oui, Simone Zanonissa, vous y tenez beaucoup à la cuisson lente, parce que vous avez grandi aussi dans une famille où on commençait le matin, ça cuisait toute la journée, pratiquement.
La chose marrante, parce qu'aujourd'hui, dans cette vague des chefs qui pensent qu'ils ont inventé la cuisine à basse température. Mais ma grand-mère faisait ça il y a 40 ans. Avec son piano, bien sûr, des cuissons en bois, avec deux fours à l'intérieur. Il y avait le four qui était plus proche du bois, qui pour retirer les pommes de terre et pour démarrer la cuisson de la poularde. Après, il y avait en dessous jusque les fours, qui étaient beaucoup plus loin et beaucoup moins chauds pour terminer la cuisson à basse température. À côté,
toujours au feu de bois?
Toujours feu de bois,
ouais. Ah oui.
Et c'était vraiment un piano de cuisson qu'on alimentait, qu'on nourrissait jusque avec du bois. Et après, il y avait la partie chaude qui était très en contact. Alors là, du coup, il y avait 3 ans de cuisson et que la grand-mère dirigeait et organisait ça en manière comme un vrai chef de cuisine.
Ouais.
Et surtout, faut pas toucher.
7 milliards de voisins.
Et la fille, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Pavel Spiridonov, alors vous, la cuisine russe, c'est votre deuxième livre de recettes.
Oui.
Là, vous avez eu envie de proposer des recettes simples, mais il y a des plats de fête dans la cuisine russe.
Bien sûr, bien sûr, il y a toujours les plats de fête. Qu'on peut d'ailleurs faire chaque jour, pourquoi se priver?
Oui, après il y a une question de temps éventuellement.
Oui, voilà. Mais on n'a pas vraiment de plat de fête, on n'a pas de plat de Noël ou de Nouvel An. c'est plutôt un repas qui compte. En plus, en Russie, toute la cérémonie de Noël avec le sapin, les cadeaux, chez nous, c'est le jour de l'an. Mmh. C'était déplacé pendant la période soviétique. Donc là, aujourd'hui,
c'est ça. Donc en fait, autour janvier, de la table, voilà, on a trois dates de fête. Hein,
voilà, ouais.
On peut dire ça, effectivement.
Alors finalement, Anaïs Delon-Lugassi, vous avez eu envie de... Vous n'avez pas de racines portugaises. Pourquoi vous vous êtes intéressée à la cuisine portugaise? Pour la défendre? Pour lutter contre des idées reçues? On a toujours des idées reçues sur toutes ces cuisines, toutes les cuisines.
Oui, c'est effectivement pour la mettre en valeur, pour la faire connaître. Je crois qu'on connaît bien, et Simone le sait, on connaît beaucoup la cuisine méditerranéenne et la cuisine italienne, notamment en France. Mais on a une communauté franco-portugaise qui est très importante et pour autant, on ne connaît pas ses recettes. Alors, avec Hachette, on avait envie de mettre en lumière, ouais, voilà ce qui fait cette jolie cuisine.
Une idée reçue qui vous énerve sur votre cuisine.
Moi?
Oui, César de Sousa.
C'est le bacalao.
Oui, le bacalao. Ouais. Voilà,
bien sûr qu'il y a de la morue. Là, c'est le produit, un peu le produit par excellence de la cuisine portugaise. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Et il y a tellement de choses à faire autour de ce produit-là. Mais les autres choses qui vont m'énerver, c'est que souvent, moi, je le vois très bien dans mon bar à manger, c'est que d'une, les gens, quand ils rentrent, ils demandent directement si c'est un resto italien. Systématiquement.
Ça, c'est votre problème.
Mais systématiquement. Ensuite, une fois que c'est à l'intérieur, ils voient, parce que j'ai fait faire des panneaux d'azulejo dont je suis assez fier, ils disent c'est espagnol. Ok, ça fait déjà deux spécialités qui sont de mon pays et qui sont... qui n'ont pas le référent, en fait.
Mais ça se rapproche petit à petit.
Ça se rapproche.
Il y a un chemin
raison.
Et vous, alors, Pavel Spiridonov, il y a des idées reçues qui vous énervent sur la cuisine russe?
Ah oui, bien sûr. Il y a... Les gens, souvent, ils associent la cuisine russe uniquement à la salade russe, par exemple. Les plus informés, ils parlent aussi de koulibiak. Donc,
le fameux koulibiak. Mais il y a quoi dedans?
C'est un gâteau avec du poisson, des champignons.
Des champignons.
Des fois, on rajoute aussi du sarrasin cuit. Donc, c'est un gâteau à plusieurs niveaux, plusieurs.
Qui tient au corps, hein, on va dire.
Ah oui, ça tient. La cuisine russe, c'est la cuisine à la base paysanne, bien forte.
Ouais. Et Simone Zanoni, pour vous, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, la cuisine italienne, c'est pas que de la tomate et de la mozzarella, hein, c'est aussi une cuisine pour l'Italie du Nord, d'abord où il y a du bétail, où il y a des produits. Votre père élevait des bêtes, hein, je crois, non?
Ouais, juste comme ça, c'est une cuisine qui est très liée au terroir. Alors du coup, le soleil qu'on a chez moi, c'est pas le même soleil qu'on a en Sicile. Et du coup, la façon de manger, la façon de cultiver, c'est pas la même. Nous, on est très proche de la montagne, on est à 800, 900 mètres d'hauteur. Et du coup, on cultive et on élève des choses qui sont pas faites en Sicile. Alors, il y a la tradition, par exemple, que mon papa a toujours voulu nourrir sa famille en manière très, aujourd'hui on l'appelle biologique. Mais à l'époque, c'était juste une question de manger des bons produits. On n'avait pas encore ces mots dans la bouche. Et du coup, il élevait ses propres bêtes parce qu'il voulait manger de la viande saine, parce qu'on avait du terrain, on avait des pommes, on avait des glandes et on avait beaucoup de choses pour nourrir les animaux. Par exemple, en ce moment, on commence à consommer les salamis qui étaient préparés à mois de fin octobre, début novembre.
Donc le salami, c'est une sorte de saucisson.
C'est un saucisson qui est fait dans la période hivernale, quand il fait froid.
À base de quelle viande? De
porc.
Hein, ouais. D'accord.
Et qui est fait dans la période hivernale, parce que du coup, à l'époque, on n'avait pas des moyens de conserver, et on peut pas faire ça quand il fait chaud. Du coup, on est obligé de les faire quand il fait froid. On commence à les faire, on commence à tuer les premiers cochons au mois de novembre, quand il fait froid, aux premières fois, en manière qu'ils ont le temps de maturer deux mois et demi pour arriver en janvier, en fin d'année, que les premières salamis sont prêts.
Donc suspendus, c'est ça, au plafond?
Exactement, au plafond, à une température qui est entre 12, 13, 14 degrés. Et on peut consommer jusqu'au mois de même septembre, pour l'année après. Et savoir qu'il y a, par exemple, dans le cochon, on gardait les pattes pour faire ce qu'on appelle les zampone. Alors, c'est des plats spécifiques qu'on consomme à la période de Noël.
Donc, ça serait l'équivalent du pied de cochon chez nous?
C'est le pied de cochon qui est désossé, qui est farci avec un mélange de chair de cochon, de chair de salami, chair de saucisson, mélangé avec de la quenne. et
donc qui est la gras, du gras, hein.
Du gras, pour vraiment, parce qu'après on le laisse cuire pendant très longtemps, 3-4 heures tout doucement, et on obtient cette zampone qui est bien sûr, c'est pas forcément les plats les plus légers du monde,
ouais,
qui est servi avec des lentilles, parce que les lentilles c'est des porte-bonheur et porte-chance pour la nouvelle année.
Ouais. Je sens que vous êtes très observé par César de Souza. Je sens que le match sur la charcuterie portugaise contre la charcuterie italienne va bientôt démarrer.
Non, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match parce que c'est pas la même manière de faire les
charcuteries. On vous donne la parole. Vous allez avoir un droit de réponse sur la charcuterie. Ce sera juste après Catch Me, Setenta. Des voisins, c'est maintenant.
On parle des cuisines, on fait le tour du monde aujourd'hui sur des plats de fête, mais pas seulement, une cuisine de la générosité entre le Portugal, l'Italie, la Russie. On sera en ligne aussi tout à l'heure avec un chef franco-malien. Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. On parlait de cette fameuse charcuterie du nord de l'Italie avec vous, Simone Zanoni. Vous êtes chef dans un grand restaurant étoilé à l'heure actuelle à Paris, le Georges. Également en face de vous, César de Souza, justement, la charcuterie au Portugal. Je crois même que vous êtes venu avec un certain produit que vous n'avez pas encore osé déballer. Mais...
Non, il est déballé.
Si, il est déballé, voilà. Il est alors, ce que vous avez apporté là, c'est, à première vue, c'est un saucisson.
C'est un saucisson, presque un saucisson. Moi, j'ai du mal avec le fait, comme par exemple Simone disait salami. Le salami, c'est un salami. Le saucisson, c'est un saucisson. Je suis assez chiant avec ce genre de choses. Un saucisson, c'est
quoi,
pas un
salami.
C'est
la différence, attendez.
C'est la manière de préparer la viande. C'est la manière. C'est
le
les morceaux de viande choisis.
Le saucisson est plus sec aussi, non ?
Le saucisson, normalement, c'est de l'épaule et du jambon. Mm. Voilà. Là, par exemple,
c'est
ça.
C'est la même bête. C'est du cochon.
Ça reste la même bête. Oui. Là, par exemple, ça, c'est un salpicão. C'est une spécialité du nord du Portugal. C'est fait avec du filet mignon de porc. Donc on est sur les morceaux nobles du cochon.
Et toc avec... Les pieds de cochon.
On a aussi des recettes aux pieds de cochon. Hein. De toute façon, rien ne se perd dans le cochon.
Ah non.
Ah, rien.
Ouais. Tout est bon, voilà.
Toutes les cuisines, c'est comme ça. Donc ce sont des filets mignons de porc qui sont marinés pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines en fonction de la race du cochon, de l'âge du cochon, dans un mélange de vin rouge, ail, laurier et paprika. Et ensuite, c'est mis à sécher pendant minimum 5 mois. Et donc, on revient à peu près sur les périodes que Simonet disait tout à l'heure. C'est que c'est un produit qui est préparé au début de l'automne et qu'on consomme à la fin de l'hiver.
Quand on vous écoute tous parler de votre cuisine, forcément vous évoquez votre enfance. Alors, je ne sais pas, Pavel Spiridonov, si quand même, hein, votre si. Enfance à Saint-Pétersbourg, bien sûr.
Bien sûr.
C'est hein. Au centre aussi de votre amour de la cuisine, même si...
C'est à la base ouais. De mon amour pour la cuisine.
Même si vous n'êtes pas chef.
Non, mais c'est dans l'enfance qu'on prend goût aux bonnes choses. Et qu'on prend goût à.
Il y avait une grand-mère dans les parages, comme pour Simone.
Grand-mère, plusieurs grand-mères, tantes.
Et babouchka.
Voilà. Oui. Tout à fait.
Mais une figure en particulier.
C'est plutôt ma mère. Déjà l'observation de cuisine, mais ce qui est aussi l'observation comment une femme qui travaille arrive encore à gérer la cuisine et préparer les plats. Sans aide forcément des supermarchés, sans que les plats préfabriqués existent.
Et pour vous, Simone Zanoni, évidemment, vous avez beaucoup parlé de votre grand-mère. Elle est toujours en vie, d'ailleurs.
Hein. Ah ouais. Hein il faut que je descende dans 17 jours parce qu'elle va fêter son 90e anniversaire.
Ouais.
Et alors, c'est plus trois semaines, non, plutôt un mois qu'à Marseille parce que je lui ai pas encore donné une date précise. Et du coup, elle ne veut pas faire sa fête sans moi. Et j'ai dehors.
Elle cuisine encore à 90 ans, votre grand-mère?
Elle cuisine un petit peu moins, mais elle fait sa cuisine aussi, bien sûr.
Quand on écoute un Italien qui vit hors d'Italie, je dirais encore plus que pour les autres nationalités, qui raconte sa cuisine, c'est vrai qu'on sent toujours une nostalgie intense, une forme de déracinement particulier par la cuisine, si je puis dire.
Par la cuisine, oui. Plus que la cuisine, même c'est si... que ce que la cuisine dégage.
Parce ouais,
que
pour. C'est ça.
Ma façon de voir les choses, je suis cuisinier, j'ai toujours travaillé pour des restaurants étoilés, j'ai fait des 3 étoiles, j'étais, à partir de l'âge de 22 ans, j'ai toujours fait que 2 étoilés. J'ai
de toutes les cuisines.
Mais j'ai une mentalité différente. Pour moi, aujourd'hui, peut-être que j'ai dépassé le cap des 40 ans et peut-être que je vois les choses de manière différente. Mais de plus en plus, je me rends compte que pour moi, la cuisine doit être une excuse pour passer du bon moment ensemble.
Une excuse et pas un prétexte.
Non. C'est vraiment, comment dire, on est ensemble, on s'aime bien, on peut passer du moment ensemble et on fait quoi quand on est ensemble? Ben, on mange, on boit. Mais c'est, pour moi, la cuisine ne doit pas devenir la priorité autour de la table parce que, en fait, autour de la table, ça doit être plutôt la convivialité qui doit régner. Et ça se fait que parfois, on peut être entre amis, entre voisins, avec les gens qu'on aime. Et manger quelque chose qui n'est pas forcément terrible, mais du coup, qui avoir l'air beaucoup mieux, c'est parce que juste au moment, on attendait passer un bon moment. Et parfois, on peut être autour d'une table exceptionnelle, avec une cuisine sublime, mais il manque l'atmosphère. Et c'est pour ça que dans le restaurant...
C'est pas forcément une question de moyens, enfin, je pose la
non,
question
pas du
vous.
Tout, pas du tout, c'est juste une question de mentalité. Et c'est ce que nous, on est en train de mettre au Georges, dans un palace, que tout le monde, palace parisien, tout le monde pense hyper grandé.
Ça intimide, hein, oui.
Ça intimide les gens, mais ils ont, justement, ils ont mis un italien. Pourquoi? Parce qu'on voulait quand même décontracter un peu l'ambiance, on voulait mettre en priorité encore l'effet que on doit venir dans mon restaurant et on doit passer un bon moment et bien sûr manger bien.
Ouais, et avec un aspect quand même culturel, terroir.
Et convivial.
7 milliards de voisins.
On est plus semblables que différents.
Faut tenir compte des voisins.
7 milliards pour moi c'est totalement vertigineux. 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète. 7 milliards de frères et de sœurs.
Pavel Spiridonov, vous, votre cuisine russe, il y a eu la chute du communisme. Qu'est-ce que ça a changé dans la cuisine russe fondamentalement?
Fondamentalement, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui ait été changé depuis...
Depuis la fin du communisme. Est-ce qu'il
y a... Même avant, la cuisine russe, elle est extrêmement...
Mais dans toutes les cuisines du monde, il y a des modes, il y a des passages, il y a des... Alors, les évolutions de la cuisine russe?
L'évolution, la cuisine, justement, après le chute de l'Union soviétique, on a la possibilité d'ouverture aux cuisines du monde qu'on n'avait pas avant, parce qu'on voyageait moins, on avait moins de produits. Et là, maintenant, c'est la grande mode, justement, de mélanger la cuisine russe avec la cuisine française, ou la cuisine italienne, ou d'autres pays. Ça, c'est une grande mode. Et je trouve que ça donne les résultats assez intéressants.
Ah oui?
Ouais.
Vous regrettez pas une cuisine plus terroir, plus...
Ah, elle existe toujours, ouais. elle a pas disparu, c'est toujours un parallèle.
Ouais. Et si je vous demandais, là autour de la table, parce qu'on parle de plats de fête, une douceur qui vous évoque vraiment les plats de fête, mais aussi, surtout, le fait que ce soit pas une recette qu'on déguste tous les jours, une douceur pour vous, Pavel Spiridonov, dans la cuisine russe, c'est plutôt quelque chose qui accompagne un bon thé chaud russe?
Bon, moi, je suis très bec à bonbons, donc ça, c'est difficile à choisir. Mais je pense, mais ça, c'est depuis l'enfance. Ça, c'est un gâteau que ma mère préparait pour mon anniversaire systématiquement. Oui. C'est le gâteau au miel.
Oui.
C'est un multicouche de biscuits au miel avec le crème à la base de crème fraîche battue avec du sucre et les noix.
Et qui s'appelle?
Qui s'appelle Medavik.
Medavik, donc une sorte de roulé.
Non,
un peu,
c'est
pas
des,
du tout.
C'est des couches plates qui doivent reposer une nuit au frigo pour bien s'imprégner de la crème. C'est une tuerie.
Une tuerie, c'est ça. Vous seriez prêt à vous lever la nuit?
Ah oui, je
pour
faisais
en
ça
remanger.
Tout le temps.
César de Souza, une douceur.
J'en aurais deux en fait. J'aurais la torte de la linge. Donc, en fait, c'est un roulé à l'orange qui a la particularité par rapport au roulé qu'on peut connaître en France, c'est que la pâte à rouler est beaucoup plus riche en œufs. On est sur une pâte qui va être presque sur le goût et la consistance d'une omelette, mais très légère, très aérienne, avec du zeste et un peu de jus d'orange dedans. Moi, personnellement, je rajoute encore un confit d'orange avant de le rouler pour sucrer encore plus la chose. Et ma recette personnelle, je mets une meringue italienne à la cannelle,
ouais.
Que j'aromatise à la cannelle.
Ah ouais, donc voilà. Vous aussi un petit peu de fusion. Hein, quand
oui, même. Toujours. En fait, c'est ma cuisine à moi. En fait, elle s'inspire toujours de recettes traditionnelles, mais que je vais toujours chercher à innover, mais pas en mettant quelque chose de nouveau, en mettant quelque chose qui vient d'autre part.
Ouais.
C'est souvent ça, mes recettes à moi. Et l'autre plat, l'autre douceur que j'aime par-dessus tout au Portugal, c'est le pudding. Rien à voir avec le pudding anglais. En fait, c'est un flan au caramel. Très riche en œufs encore. De toute façon, la pâtisserie portugaise est extrêmement riche en œufs. Parce que c'est surtout des pâtisseries, ce qu'on appelle des pâtisseries conventuelles. Donc des recettes qui viennent des couvents.
Ouais.
Et
alors nous, évidemment, on connaît des pastéis de nata, le
absolument.
Petit flan là sur une pâte feuilletée. Vous allez me dire que c'est encore
feuilletée.
Des idées reçues ou plutôt de l'ignorance parce qu'on ne connaît pas beaucoup d'autres choses.
En même temps, c'est normal qu'on connaisse bien ce produit-là.
C'est pas un déshonneur, hein, le pastéis de nata,
c'est un tout petit gâteau qui fait qui a l'air de rien comme ça, mais quand vous le goûtez, quand il est vraiment bien fait. C'est moi, j'en ai presque des frissons dans les bras, rien que d'en parler. Je suis en train de penser à 2-3 endroits où on les mange vraiment bien. J'ai des frissons dans les bras.
Anaïs Delon, c'est ce que vous avez cherché aussi à montrer dans le livre. Retrouver aussi des cuisiniers, des producteurs, des gens qui font de très très bons produits de base.
Exactement, on a eu la chance de rencontrer effectivement beaucoup de personnes au Portugal qui font des choses extraordinaires. Une pâtisserie spécialisée dans ces fameux gâteaux des couvents. Donc beaucoup de, à première vue, des gâteaux qui se ressemblent, mais qui ont tous une petite particularité. On vient y rajouter des amandes, on vient y rajouter des noix, il y a beaucoup de miel aussi. On a rencontré aussi des gens qui font un pain absolument excellent. Et je crois que César t'a apporté du pain aussi aujourd'hui.
Alors, il a une croûte incroyable, hein, ce pain. Il est doré, il est... Qu'est-ce qu'il a de particulier?
Un pain à la farine de maïs. Mais il n'y a que de la farine de maïs. Les pains à la farine de maïs qu'on va trouver, nous, ici en France, sont souvent des pains qui sont coupés. Mm. On a moitié de farine de maïs, moitié de blé.
Et du levain pour un effet de panification, et du
levain pour le gonfler. Là, on est sur un pain, on est sur quelque chose d'extrêmement dense. Hein, on peut taper dessus, il ne s'écrase pas.
Oui.
Hein, on entend, je ne sais pas si on entend le bruit.
Si,
là,
on
mais,
entend ça.
Voilà. Et moi, j'ai...
Faites-le passer aux invités, là.
Moi, j'ai le souvenir de ce pain, c'est ma grand-mère qui...
Ah ouais
qui, ma grand-mère,
C'est quoi, un kilo, ça?
Là, il y a un kilo 2, un kilo 3, oui. C'est très très dense.
Et alors, vous parliez de farine, c'est intéressant
si
parce que...
Si t'as un couteau, coupe-le ou je t'en prie. Hein.
Et en plus, à mon avis, c'est un invité qui est un peu casse-pied, tu peux le tuer avec.
Ouais. Ouais, parce que Sibonnet ne se balade jamais sans son couteau
et il a bien
dans Paris.
Malheureusement, aujourd'hui, ça devient compliqué à faire.
Ah oui, donc on voit bien, Sibonnet a ouvert le pain et c'est jaune vif à l'intérieur, c'est la farine de maïs.
On voit encore les petites graines
Ça sèche pas, c'est le riz.
Ça sèche, mais ça met beaucoup de temps à sécher. Ça, c'est le genre de pain, vous le mettez dans votre...
Parce qu'il y a de l'humidité dedans, c'est ça?
Il y a un peu d'humidité dedans. Comme la croûte est très épaisse, hein, on voit bien, Cette humidité, elle reste très longtemps.
Jusqu'à ce qu'il n'est pas coupé, il...
Tant qu'il n'est pas coupé, vous gardez un mois sans problème.
Ouais. J'allais sans vous poser problème. La question aux uns et aux autres, là. Une farine qui représenterait votre cuisine, Pavel Spiridonov.
Une farine blanche. Et éventuellement mélanger avec la farine de sarrasin ou la farine du seigle.
Ouais. Et pour vous, Simone Zanoni, en Italie?
Polenta.
Ouais. Donc,
polenta, c'est en aussi. Plus, j'étais en Italie la semaine dernière, j'étais à Alba.
Ah, alors en plein Piémont.
J'ai un peu de truffes. Et du coup, je suis passé par chez moi et maman elle m'a donné, parce que mes enfants, ils sont dingues de polenta. Mais pas la polenta qu'on achète ici, la polenta qui est cuite en 5 minutes, voilà.
D'accord, alors, faut pas acheter de polenta pré-cuite, donc.
Ouais, et du coup, la polenta n'est pas pré-cuite, et mon papa a des plants de maïs, prend les maïs, il l'amène dans le village à côté, où ils ont un moulin encore qui tourne avec le fleuve, et comment ça s'appelle, le moulin à pierre, ils sont encore avec des pierres.
Meule de pierre pour faire la farine.
Pour faire de la farine, et du coup, la farine, elle est plutôt grossière. Elle n'est pas fine, elle n'est pas vraie. Hein. Et la polenta, il faut la faire cuire
alors,
45 minutes.
Ah oui, 45 minutes.
Et il y a deux écoles différentes. Ma grand-mère, elle mettait toujours aussi du vieux pain à l'intérieur. Parce que
donc dans l'eau bouillante avec
l'eau bouillante.
La polenta qu'on a jetée en pluie dans l'eau bouillante.
Exactement. Et elle mettait du pain au départ parce que bon, c'est des recettes vraiment anti-gaspillage.
Ouais.
Et quand on avait du
un
vieux
morceau
pain
rassis,
qu'on ne savait pas quoi faire... Alors, il y avait toujours un cochon dans le coin pour lui donner, mais bon, les vieux pains, il était encore
donc
un peu trop noble.
Donc, on mettait un morceau de pain, mais ça redonnait quoi un peu
Ça donne de la consistance.
Ah, d'accord.
Et ça donne un peu plus de goût. Et du coup, après, la polenta, elle est cuite 45 minutes. Et alors, il y a encore l'école de la grand-mère qui, quand on commençait à faire la polenta, il ne fallait pas la déranger parce qu'elle fallait qu'elle fasse que ça. Et
qu'il faut remuer tout le temps.
Tout le temps.
45 minutes à remuer tout
minutes.
Le temps. Ouais, d'accord. Et après, vous nous dites qu'avec la polenta pré-cuite, c'est un sacrilège, mais quand même, là, il y a un principe de réalité, hein, Simone.
Et il le faisait dans torchon après ou...
On la mettait, alors, au départ, la polenta, elle faisait toujours de la polenta en plus. Elle mangeait de la polenta fraîche, comme ça, assez, plutôt moitié liquide.
Donc, le maïs, l'eau, mais quoi? Des herbes,
sel,
de l'huile d'olive?
Non, rien du tout.
D'accord.
Rien du tout. Juste avec de l'eau et avec du sel. Une fois que la polenta, parce que la polenta, elle était mangée pour accompagner un plat. C'était un mijoté, c'était de la queue de bœuf braisée, c'était vraiment plutôt sous des viandes qui est un peu juteuses, avec du jus pour manger avec. Après, la polenta qui était pas consommée dans le repas, elle durcit et on pouvait la trancher en morceaux. Et la faire griller pour faire qu'est-ce qu'on appelle un plat que moi j'adorais d'enfance, c'était la polenta tranchée grillée avec du gorgonzola et des noix brisées. Alors là, du coup, ça me ramène des souvenirs un peu assez importants. Oh, sinon, dans la saison, encore une fois, la saison des champignons, on avait beaucoup de cèpes chez nous. On faisait un braisé des cèpes et assez juteuse et avec ça, avec la polenta, c'était waouh.
Bon, ben on parlait de farine, justement. Vous restez avec nous, Simone Zanoni, Pavel Spiridonov, Anaïs Delon et César de Souza. Dans quelques instants, on va donner la parole à un voisin, à Bamako, Nounou Dembaga, qui s'est installé à Bamako. Il est franco-malien et les farines et les céréales comptent beaucoup dans la cuisine sur le continent africain. Ça sera juste après Amadou et Mariam.
C'est au Manhattan, fast-food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti, la gare Dakar Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance, amour solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il?
Déjà 2000 ans au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Mali, quelle heure est-il? Au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, Dakar, Bamako, Rio de Janeiro, où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris.
De voisins sur RFI en ce 1er janvier. On fait un tour culinaire de quelques pays, la Russie, le Portugal, l'Italie. D'ailleurs, il y a un petit sachet qui circule là grâce à César de Souza. Ce sont
des figues séchées.
Ça a l'air
des figues qui viennent de l'Alentejo. L'Alentejo, c'est la région qui est au sud de Lisbonne.
Elles sont toutes petites.
Elles sont toutes petites, effectivement. Dans l'Alentejo, en général, les fruits sont petits parce que c'est une zone qui est très aride. Il fait très très chaud, donc il y a énormément de cultures céréalières qui malheureusement sont très gourmandes en irrigation. Mais moi je les préfère comme ça parce que sont du coup
verdict
beaucoup plus concentrées
en saveur. De notre ami italien Simone.
Ouais, ils sont super goûteurs.
Voilà. Ah, allez, on donne la parole à Bamako, à Nounou Dembaga. Bonjour Nounou Dembaga.
Bonjour tout le monde.
Alors
bonjour.
Depuis le début de l'émission, on se souhaite la bonne année. Dans quelle langue vous choisissez de souhaiter la bonne année aux voisins, Nounou?
Alors je souhaitais de souhaiter la bonne année en Bambara. On dit Annie Sanouno.
Alors Nounou Dembaga, bah, bonne année à vous en tout cas, hein, bien sûr.
Merci, à vous aussi également.
Nounou Dembaga, vous avez grandi en France et vous avez appris la cuisine dans des cuisines prestigieuses auprès de grands chefs. Et puis vous avez décidé de vous installer au Mali, de revenir sur la terre de vos parents, de votre famille, pour ouvrir un service de traiteur, la Toque Noire. J'ai bien tout dit là?
Alors vous avez bien tout dit, sauf que la Toque Noire a commencé en France. Donc l'esprit, en fait, c'est que moi j'ai un concept qui s'appelle l'afrofusion. Donc l'afrofusion, c'est quoi? C'est des techniques occidentales et je prends des produits maliens, plus généralement africains.
Ouais.
Donc l'aventure, elle a commencé en France où j'ai appris mon métier là-bas, donc la gastronomie française, italienne et autres. Et voilà, j'avais cette envie de mettre un petit peu de ma culture et de mon savoir-faire dans ce que je faisais. Donc d'où l'afrofusion. Et il me semblait que c'était un peu logique dans ce concept-là de pouvoir venir ici. Donc j'étais venu ici pour former les jeunes à cette gastronomie, à prendre conscience en fait de leur terroir et des choses qui appellent ici avec les produits locaux. Donc voilà un peu...
Alors, un exemple d'afrofusion, alors avec quels produits locaux vous travaillez et ça donne quoi comme recette et comme plat? On a beaucoup parlé des farines tout à l'heure, hein, on a parlé de la polente, des farines qui sont la base de certaines recettes. Vous, est-ce que c'est ça fait partie des produits que vous travaillez en priorité ou pas forcément?
Alors, pas dans un premier temps. Alors, moi, ce que j'essaie de travailler, c'est les produits que les gens connaissent déjà. Donc, notamment, un produit, si on va partir sur cette afrofusion que j'ai pu faire, genre un poulet au bissap. Et un gratin de patates douces et de pommes de terre, par exemple.
Ouais. Voilà, bissap, tout le monde connaît là autour de la table, non, la fleur d'hibiscus. Non, hein. Non, mais alors, c'est parce qu'il y a des mots différents dans chaque pays, c'est ça. Ouais, la fleur d'hibiscus. Ouais.
Alors le bissap, c'est ça, c'est bien la fleur d'hibiscus. Ici, traditionnellement, c'est une boisson qui se boit très fraîche, en fait, pour désaltérer les gens. Et donc, j'ai l'idée, en fait, de pouvoir la travailler avec différentes épices et des fruits et légumes pour en faire une marinade et la cuire avec du poulet. Donc c'est vrai que ça choque beaucoup les gens, mais c'est vrai que la cuisine, c'est un peu ça aussi, c'est novateur, c'est d'aller chercher des nouvelles choses et essayer de créer des choses. Donc voilà pour le boulet au bissap. Et sur le gratin, donc c'est à la base d'un gratin dauphinois. Mmh. Donc je suis parti sur un gratin à la base, un gratin dauphinois simple, où j'ai incorporé en fait voilà de la patate douce, on peut trouver ici, ou avec des lignames également, et pour en faire un gratin de patate douce et de pommes de terre.
Et alors, réaction des clients locaux à Bamako, est-ce que parfois on vous dit, mais c'est quoi ce truc?
Alors, oui, justement, la première fois que j'ai pu dire un poulet au bissap, c'est vrai que les gens m'ont regardé avec des grands yeux. Le bissap, c'est pas forcément quelque chose qui se mélange, le sucré salé, c'est pas très, très connu. Mais il y a quand même à Bamako des gourmets, les gens à Bamako mangent très bien. Et il y a des gourmets voilà qui sont justement intéressés par cette nouvelle cuisine en fait voilà qui voyagent, qui voient autre chose dans le monde et qui veulent voilà découvrir leurs produits en fait travailler différemment.
Ouais. Non mais je vous posais la question mais on peut être très gourmet et ne pas avoir envie de s'éloigner du code de base hein de la recette de base non, je ne sais pas César de Souza quand vous proposez vous parliez d'un plat au début de l'émission où vous ajoutez une meringue italienne, on pourrait vous dire ah ben non là c'est plus le Portugal.
Alors effectivement lorsque je vais au Portugal voir ma famille et que je prépare des plats là-bas comme je les prépare ici, en général, on me fait toujours des petites réflexions sur non mais pourquoi t'as mis ça, j'en veux pas, mais ça j'aime pas. Par exemple, je suis un grand fan des herbes fraîches. La plus grande partie de ce que je prépare, de ce que je fais, je l'ai fini à l'herbe fraîche. Évidemment, en fonction du plat, on met pas toujours les mêmes herbes fraîches. Et moi, quand je fais ça là-bas au Portugal, j'ai mes cousins et mes cousines me regardent en disant mais on n'est pas des lapins, pourquoi tu mets ça là-dedans? Il y a quelques années de ça, j'ai fait à Noël, j'ai fait une queue de lotte aux épices avec de la badiane et de la cannelle. Et ils m'ont regardé, mais c'est du poisson, pourquoi tu fais du dessert? Non, enfin, je...
Ah mais non, mais c'est pas facile de contenter tout le monde, non, Nounou Dembaga?
Non, c'est pas facile, mais après je pense que tout cuisinier, en fait, c'est un peu ça l'âme du cuisinier aussi, c'est vraiment de tester des choses. Après, on peut pas plaire à tout le monde, entre guillemets, on teste des choses qui nous plaisent d'abord, parce que la cuisine, je pense que c'est avant tout du partage et... de transformer des produits que nous on aime d'une certaine manière. Donc aujourd'hui c'est vachement en tendance puisque vous avez cette nouvelle cuisine ou même les grands chefs avec qui moi j'ai pu apprendre, voilà, sont vraiment en train de revisiter plusieurs recettes. Ça se fait dans la pâtisserie, ça se fait dans la cuisine locale ou dans la cuisine mondiale en général.
Et vous avez le sentiment les uns et les autres là autour de la table, désolé que vous, vraiment c'est triste que vous soyez pas avec nous, Dembaga, parce que si vous saviez tous les produits qui ont été apportés, on aurait eu les vôtres en plus, là, ça aurait pu être extraordinaire. Alors, mais bon, avec la magie de la radio, on fait comme si, hein, Nounou Dembaga. Mais est-ce que c'est pas un peu vos missions respectives de à la fois coller à la tradition et de faire évoluer les pratiques, les goûts, les curiosités aussi, non
Bien sûr. C'est le rôle, en fait, quelqu'un qui aime faire la cuisine, c'est de donner l'ouverture aux autres personnes.
Mais vous nous disiez, Pavel Spiridonov, qu'à Moscou, à Saint-Pétersbourg, c'est ce qu'on attend aujourd'hui, finalement, cette cuisine fusion.
On attend, mais en même temps, il y a des plats de famille, par exemple, qui sont impossibles de faire de façon que tout le monde soit content. Ouais. Par exemple, le borscht, la soupe à la betterave, je peux faire de 1000 façons différentes et chaque fois il y a quelqu'un qui dira mais non, dans ma famille on fait pas ça comme ça. Donc c'est pas un vrai borscht.
C'est complètement vrai, mais ça c'est mais en même temps c'est dans l'essence de la cuisine traditionnelle, de la cuisine de la maison, c'est que les recettes souvent il y a une base et d'une région à l'autre elles vont être légèrement différentes et même des fois d'un homme à l'autre elles vont être différentes.
D'une famille à l'autre, Simone.
Moi j'en sais quelque chose parce que il y a certaines recettes qu'à la maison il faudrait pas toucher hein. La grand-mère avait sa façon et voilà, c'est juste que sa façon. Et, bon, après, qu'est-ce qui fait les charmes aussi de la cuisine en général, c'est que elle est réinterprétée par les mains d'un cuisinier qui a eu son parcours, qui a eu sa vision. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les clients attendent aussi. On va manger chez Simone ou on va manger chez quelqu'un d'autre parce que on a une marque de fabrique, on est sous quelque chose d'assez personnel. Ouais.
Nounou Dembaga, à l'heure actuelle, vous avez un service de traiteur à Bamako. Vous avez le projet d'ouvrir un restaurant au Mali?
Alors, c'est ce qu'on, en fait, on tente de se transférer un peu les activités ici au Mali. Donc, on a des activités de chef privé à domicile. Donc, ici, on entouré d'ambassades, de réceptions privées chez des particuliers ou autres. Organisation d'événements, donc traiteurs, mariage, anniversaire, baptême, tout événement festif, inauguration. Et on fait accessoirement aussi du catering. Donc c'est de suivre les artistes en fait lors de leur déplacement pour des spectacles et mettre à disposition cette cuisine-là où les gens retrouvent un petit peu au Mali notamment de leur culture. Et voilà, mélanger à cette cuisine française occidentale en fait où les gens connaissent un petit peu.
Nounou Dembaga, pour l'année 2019, parce que je vais poser la question à tout le monde avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez une bonne résolution culinaire?
Alors, une bonne résolution culinaire pour l'année 2019, oui, ce sera la banane plantain. Oui. J'ai décidé à travailler la banane plantain de plein de façons, donc notamment je l'ai fait en beignet, je l'ai fait en frit, va faire, là justement j'ai sorti un menu que vous pouvez trouver sur le site Le Monde du Vax, avec le banane au saumon pour les apéritifs de cette année dernière. Et voilà, je continuerai à travailler en fait ce produit-là. Donc j'entendais tout à l'heure la polenta, donc voilà, c'est des choses que j'aime travailler au fait, que j'aurais travaillé au fait avec ma manière et avec les produits sans lumière.
Bon, on va goûter ça bientôt. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Nounou Dembaga. Simone Zanoni, merci à vous, très bonne journée. Une bonne résolution culinaire pour 2019?
Bah, en fait, j'ai élargi mon champ de vision, et je suis en train de venir, peut-être encore avec l'âge, beaucoup plus éco-responsable. Je trouve que c'est un engagement qu'un chef aujourd'hui peut pas négliger. Mmh. Et du coup, on est en train de monter beaucoup de projets autour du recyclage, autour du anti-gaspillage. Et bien sûr que j'invite tous les chefs aujourd'hui qui font de la cuisine à pas que penser aux produits, mais à penser à comment on peut sauvegarder la terre qui nous donne tous ces bons produits. Mmh. On a mis beaucoup d'actions en place, également un potager à Versailles. On recycle tous nos déchets alimentaires, on produit nos propres miel, on recycle nos marcs de café. Ouais,
protéger la planète pour protéger la cuisine, hein, tout simplement.
Exactement.
Et vous, Pavel Spiridonov, alors, votre bonne résolution culinaire 2019?
Moins ambitieuse.
Bon, il y a déjà 2 livres de cuisine.
Voilà, mais non, pour moi, c'est plutôt résolution personnelle, oser plus de mélange, oser sortir des recettes de la cuisine italienne, portugaise, russe, aller plus loin, les mélanger plus souvent.
Prendre des risques, César de Souza.
Bah, je vais être un peu dans la même verve que Simone, c'est que ça va être d'utiliser de plus en plus de produits, de fruits et légumes en l'occurrence, bio et locaux. Donc, Simone parlait d'un jardin à Versailles. Moi, actuellement, je me fournis de plus en plus au jardin du château de Courance, qui a donc mis à disposition son jardin potager en production sauvage ou bio pour plusieurs restaurants à Paris.
Et pour vous, Anaïs Delon, alors, un prochain livre de recettes?
Oui, un prochain livre
pour
sur
un autre pays.
Alors, on va partir pour une île, mais je peux pas dévoiler encore, et on va partir sur un travail avec la maison Hachette sur un produit qui a beaucoup de fans, mais j'en dis pas plus, on verra ça au printemps prochain.
Une île et un produit déjà plébiscité. Bon, voilà. Bah, on a quelques mois pour deviner. Voilà. Merci en tout cas à vous tous. Merci aussi pour tout ce que vous avez apporté. Le panettone va bientôt être découpé. On va déguster les petites figues séchées. Le petit gâteau, là.
Alors ça, c'est un boule d'arouge.
Ouais.
Traditionnellement, c'est un gâteau qui est fait à la farine de riz.
Bon, ben, on va se régaler, on est désolé, on le fera sans vous, mais on va penser à vous, les voisins et les voisines. Merci en tout cas à vous tous. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des familles monoparentales. Et surtout, on vous souhaite à vous tous encore une très très belle année. Que tous vos vœux se réalisent avec, si possible, de bons petits plats partagés avec ceux que vous aimez. Et merci encore à vous de votre fidélité. À demain, les voisins et les voisines.
Tout le monde est voisin.
Il y a quelque chose comme l'idée de créer des passerelles entre les différentes cultures, non?
Bonjour Emmanuel, bonjour les auditeurs.
On sent tout petit finalement.
Très proche en même temps. Hein.
Bonjour Emmanuel.
La planète est un immense village, alors c'est bien de savoir aussi qu'il y a des gens qui sont proches de nous.
Bonjour à vous, bonjour à tous les 7 milliards de mes voisins qui se trouvent sur la planète Terre.
C'est 7 milliards de destins, 7 milliards d'histoires d'amour.
Ça m'aide, moi aussi, comme beaucoup d'autres, à pénétrer le monde.
C'est 7 milliards de déceptions, c'est 7 milliards de joies, de pleurs, c'est
l'aventure.
Oui, bonjour.
C'est une extension de la famille dans un sens où on les a au quotidien à côté de soi et c'est bien de les connaître, d'échanger avec eux.
C'est la planète, non? On est 7 milliards sur Terre, c'est ça? Je dis pas de bêtises?
Oui, 7 milliards.